Il y a beaucoup trop d'informations pour décoder la matrice.
Voilà, faut dire que nous sommes très présents sur le net.
Ils nous pollinent !
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Bah ça, après, moi, pour le détail, je sais pas. Je connais rien.
Le numérique représente 4% des émissions carbone dans le monde. C'est autant que l'aviation civile. Une vraie réflexion sur les infrastructures et les usages est primordiale pour répondre aux défis sociétaux et environnementaux actuels. Je suis Charlotte Madère et avec l'équipe des Écologiques Anonymes, nous vous emmenons à la découverte du concept de sobriété numérique. En moins de 5 minutes, informez-vous avec des contenus scientifiques accessibles et appliquez sans attendre nos bonnes pratiques concrètes pour une vraie transition vers l'écologie numérique. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'accessibilité en ligne. Par accessibilité, entendez la capacité à un support d'être lisible, audible, utilisable par tous sur Internet. La plupart du temps, ça concerne les personnes porteuses de handicap et il existe tout un univers underground du numérique pour les personnes avec des besoins spécifiques. Il y a notamment dans les paramètres de votre ordinateur et de votre smartphone une rubrique « Accessibilité » que vous n'avez probablement jamais utilisée. Elle permet d'agrandir les contenus ou la police d'écriture, d'augmenter les contrastes, de sous-titrer les vidéos
ou de générer une lecture électronique de texte.
Mais comment, au quotidien, pouvons-nous contribuer à rendre le numérique plus accessible et donc plus éthique ? Nous allons voir aujourd'hui que les enjeux de l'écologie numérique et de l'accessibilité sont finalement très liés. En France, sur 67 millions d'habitants, 12 millions sont en situation de handicap. Des études estiment que ce nombre devrait doubler d'ici 2050. On peut même pousser le bouchon plus loin en allant jusqu'à dire que 67 millions de personnes seront un jour en situation de handicap. Vieillissement de la population, maladie chronique, pollution ou un simple bras cassé vous met en situation de handicap à un moment de votre vie.
Mais aussi il n'y a pas longtemps, j'ai trois comme handicap.
On distingue quatre formes de handicap.
Trois de l'œil droit et cinq du gauche.
Les handicaps moteurs qui entravent la motricité, donc pas seulement les fauteuils roulants mais aussi votre bras cassé, c'est le plus visible, même si cela ne concerne que 2% des personnes en situation de handicap. Les handicaps sensoriels, visuels ou auditifs, et les handicaps psychiques ou cognitifs, dyslexie, troubles autistiques, troubles de l'attention, trisomie, etc., c'est la forme de handicap la plus vaste et la plus répandue. Alors concrètement, que peut-on mettre en place pour permettre à toutes ces personnes, quels que soient leurs besoins, d'accéder aux informations et services en ligne ?
Déjà être lisible, ça serait pas mal.
En effet, pour commencer, on peut faire évoluer sa manière d'écrire en pratiquant par exemple le FALC.
Facile à lire et à comprendre.
C'est une méthode rédactionnelle qui permet de rendre un texte accessible aux porteurs de handicap mentaux. Au-delà de cela, peut-être êtes-vous féministe comme moi.
Ma pauvre chérie, tu es tombée sur le seul handicap qui ne soit pas remboursé par la SIC.
Bref, si vous utilisez l'écriture inclusive, c'est-à-dire le fait d'ajouter un point puis la terminaison pour fusionner le masculin et le féminin dans le texte, par exemple quand j'écris professionnel 2NEL.LE, eh bien c'est une fausse bonne idée. C'est tout simplement une catastrophe en ce qui concerne l'accessibilité, complètement illisible à la fois pour les logiciels de lecture des malvoyants et pour les dyslexiques ou autres troubles cognitifs.
Et les gars, il y a aussi le podcast.
Sachez que les médias audio sont parmi les plus accessibles, exception faite des personnes sourdes et malentendantes, même s'il existe des solutions de sous-titres. C'est peut-être le moment de tester le podcast, support qui a le vent en poupe. La radio et les contenus sonores en général sont également beaucoup moins consommateurs d'énergie et de données que la vidéo par exemple. Les bonnes pratiques sociales rejoignent ainsi les bonnes pratiques environnementales.
Faut arrêter les gifs à la noix.
Enfin, si vous êtes un professionnel et avez un site web, il faut savoir que moins il y a d'animation et de fioritures, et plus le parcours utilisateur est court et simple, plus vos contenus seront lisibles. Voilà un point qui ravira à la fois les professionnels engagés pour l'écologie numérique et pour l'accessibilité. Un support numérique léger et sobre est toujours plus vertueux. Ainsi, on évite comme la peste les pop-up, on bannit les sliders, on évite les couleurs trop vives ou tout ce qui clignote, les épileptiques vous remercieront, ou toutes les actions qui n'apparaissent qu'au survol de la souris, comme les liens ou menus cachés derrière des icônes. Même mamie, qui ne fait pas la différence entre une URL et une adresse email, et souffre, sans être porteuse de handicap, de ce qu'on appelle la fracture du numérique, s'y retrouvera davantage. Pour résumer, on veille à sa façon d'écrire en pensant à celui ou celle qui nous lit, on favorise les médias sonores et on évite les fioritures et animations anarchiques si on est nous-mêmes administrateurs de sites. Merci d'avoir écouté les écologiques anonymes.
C'était sympa.
Vous êtes aujourd'hui un peu plus conscient qu'hier qu'utiliser le numérique a un impact réel sur la société et l'environnement, et vous êtes à même d'agir à votre échelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour d'autres bonnes pratiques numériques responsables.